temps, contre-temps. Une émission de Canal Academy, Virginia Crespo et ses invités.
Bonjour, soyez les bienvenus à l'écoute de Canal Academy et de son émission Temps contre temps. Temps contre temps qui se décline sous la forme de deux concepts. Vous êtes soit à l'écoute d'un dialogue entre étudiants et académiciens, soit à l'écoute d'une émission portrait qui vous invite à mieux connaître notre invité. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir un éminent professeur, l'éminent cancérologue Lucien Israël. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Vous êtes donc docteur en médecine, maître de conférences, professeur de cancérologie de renommée internationale. Et depuis 1985, vous présidez le laboratoire d'oncologie cellulaire et moléculaire humaine que vous avez fondé à l'université Paris 13 à Bobigny.
Non, vous avez du retard.
Alors, dites-moi.
Parce que depuis 1995, l'administration a sorti ma carte d'identité, m'a dit « Monsieur, vous avez atteint l'âge de la retraite, il est temps de partir ». Et donc, j'ai dû quitter et le laboratoire que j'avais créé, l'université. On m'a demandé, bien entendu, d'aller aux États-Unis prendre un service à Chicago, en ajoutant que tous les matériels qui coûtaient moins de 100 000 $, j'étais autorisé à signer tout seul. Mais pour différentes raisons, je ne pouvais pas m'y rendre. Donc actuellement, je suis bénévole dans un dispensaire. C'est ma seule activité médicale.
Alors après cette hyperactivité au niveau médical, comment vit-on cette situation ?
Eh bien, écoutez, très difficilement. Très difficilement parce que pendant une quarantaine d'années, mon problème, c'était de faire front à la maladie, d'hospitaliser dans le service que je dirigeais à l'Université Paris 13 les patients qui étaient en difficulté, qui d'ailleurs venaient de tous les coins de France et même d'Europe, et de faire en sorte que, premièrement, ils quittent leur angoisse, et deuxièmement, de les sauver, ou au moins d'arrêter la progression de la maladie. C'est un problème important pour la cancérologie parce que à la vitesse où on fait les progrès actuellement en thérapeutique, arrêter l'évolution d'un cas qu'on ne peut pas guérir, c'est tout de même avoir un grand espoir de le faire durer jusqu'à ce que les nouveaux traitements apparaissent. Et par conséquent, c'était un combat de tous les instants, et il n'y avait pas spécialement de dimanche, de temps en temps il n'y avait pas de nuit. Je dois dire que mes élèves étaient extrêmement coopératifs, et mes infirmières aussi, de sorte que nous avions une équipe très soudée, très volontaire, et donc je n'ai pas vu le temps passer, n'est-ce pas ? Et puis, un jour, j'ai dû quitter, puisqu'ainsi le veulent les règles dans l'administration.
Est-ce justement, professeur Israël, selon vous, un mal français ?
Oui, je pense que c'est un mal français absolu. Alors, j'ai été accueilli par un dispensaire où je suis évidemment bénévole et où je reçois beaucoup de personnes, soit d'anciens patients qui désirent être surveillés, soit des amis d'anciens patients qui ont à leur tour un cancer et qui viennent, ou d'autres personnes, bref. Ça n'est pas du tout le même genre d'activité, car je ne peux pas hospitaliser des personnes. Je peux simplement les recevoir en consultation et soit m'adresser à leur médecin, soit les adresser dans un service de cancérologie ou gynécologie.
Toujours dire la vérité, le professeur Israël.
Bien entendu, dire la vérité. De toute façon, on ne peut pas obtenir la coopération du patient si on ne dit pas la vérité. Mais par contre, à propos de vérité, je crois qu'il m'est jamais arrivé, je ne me souviens pas qu'il me soit arrivé de dire « il n'y a rien à faire ». Parce que ce n'est pas le cas. Il y a toujours quelque chose à faire. J'ai eu beaucoup de patients qui venaient me voir en me disant on m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote à ce sujet ? Eh bien, j'ai dû écrire ça quelque part. Le souvenir d'un patient qui était un visiteur médical employé dans l'industrie pharmaceutique et qui est venu me voir avec des métastases dans les deux poumons d'un cancer du rein. Il arrivait du sud de la France et c'était à l'époque où j'étais encore dans mon service. Et on venait de recevoir un nouveau médicament, l'interleukine 2 à l'époque, c'était tout à fait récent. Et je lui ai dit, écoutez, ça vient s'ajouter au traitement que nous avions l'habitude de faire, mais ça a une activité particulière de plus, et par conséquent c'est important, mais je vous préviens que ça a des effets secondaires aussi considérables, de la fièvre, un mal-être, etc. Est-ce que vous êtes d'accord pour entrer et accepter ce traitement ? Et il m'a fait cette réponse que je ne peux pas oublier. Il m'a dit, docteur, je vais faire ce que vous me dites, parce que depuis que j'ai des métastases, vous êtes le premier médecin qui me regarde dans les yeux.
Magnifique.
Si c'était arrivé avant, j'aurais écrit ça dans ce livre.
Oui, et justement, mains, mais... pour la relation médecin-patient, vous écrivez dans la décision médicale, on aimerait pouvoir expliquer à tout un chacun que telle fièvre, même élevée, cédera toute seule, comme tel désordre digestif ou tel épisode insomniaque. Mais c'est admettre que chaque homme atteint ici-bas la maturité, et ce n'est pas le cas. Il est satisfaisant de pouvoir dire à autrui « Ne cherchez pas un secours extérieur là où il n'y a pas lieu de craindre. Acceptez une incommodité passagère. »
Oui, ça, parce que en effet, les traitements qu'on utilisait et qu'on utilise encore aujourd'hui dans les cancers ont des effets secondaires importants. Mais bien entendu, lorsqu'on a exposé la situation, pesé les avantages et les inconvénients, je ne me rappelle pas avoir essuyé de refus dans la proposition d'un traitement.
Docteur Israël, vous êtes né dans quelle région ?
Eh bien, je suis né avenue Junot à Montmartre, dans le 18e arrondissement.
Et vous n'avez jamais quitté Paris ? En dehors de vos déplacements professionnels ?
Oh bah si, j'ai quitté Paris en particulier de 1940, de juin 40 à fin 43. Et puis fin 43, vous voulez savoir ce que j'ai fait à ce moment-là ? Je suis revenu à Paris sous un faux nom, j'étais au collège de Brive-la-Gaillarde et j'étais junior dans l'équipe de football du collège. Et un de mes camarades de classe et d'équipe, les deux d'ailleurs, m'a donné sa carte d'alimentation, me l'a prêtée plus exactement, pour que j'aille dans le village où il était né, le village corrézien à 20 km de Brive, demander une carte d'identité avec cette carte d'alimentation. Et j'avais donc une carte d'identité à son nom, et cela c'était parce qu'on m'avait demandé d'aller à Paris et d'aller travailler dans une entreprise près de la gare du Nord, qui avait pour objet d'embaucher des gens qui transportaient les valises et les bagages dans la gare du Nord, et cela en vue de repérer les horaires des trains allemands, les numéros des régiments, etc. Et je suis donc resté jusqu'à la libération de Paris. Je ne savais pas ce qu'étaient devenus mes parents, qui étaient restés à Brive. Finalement, mon père était dans un maquis de la Corrèze, à la fin. Là. Et voilà, et j'étais, pendant la libération, j'étais occupé à défendre une barricade sur l'avenue des Gobelins. Et puis après, deux, trois jours après, les troupes françaises sont entrées. La division Leclerc, et je me rappelle, il y avait un enthousiasme incroyable, une foule considérable. Mais pendant que nous défendions la barricade de l'avenue des Gobelins, l'une des, parce qu'il y en avait plusieurs, eh bien, il y avait un marché à quelques rues plus loin. Et malgré les coups de feu, etc., il y avait du monde parce qu'ils avaient besoin de se nourrir. Donc, il y avait des dames qui faisaient leur marché là, à 300 mètres de l'endroit où on se battait.
Ça, c'est votre vie d'homme jeune. Si on remonte un peu plus en amont dans votre vie, quels souvenirs, justement, gardez-vous de l'enfance? Le mot « enfance » évoque quoi pour vous?
Eh bien, le mot « enfance », figurez-vous que je suis en train de rêver en ce moment à la façon dont je pourrais vaincre ma paresse pour écrire mes mémoires. Par conséquent, je repense à toutes ces choses. Mon enfance, eh bien, j'étais dans une école maternelle rue de Chabrol, dans le 10e arrondissement, et puis l'école primaire rue Martel, aussi dans le 10e arrondissement, où je me rappelle le nom de tous mes instituteurs, et il y en avait qui nous battaient à coups de canne quand ils trouvaient qu'on s'était mal conduit, et nous les adorions, et ils ne seraient pas venus à l'idée de nos parents de protester. Donc nous étions dressés par nos instituteurs.
Vous aimiez l'école ?
Études ? Bien sûr. Et puis alors après, je suis allé au lycée Rollin, avenue de Trudaine, et j'ai fait la 6e et la 5e. J'ai sauté la 4e pour entrer en 3e, ce qui fait que j'ai continué le latin, mais je n'ai pas pu faire de grec, puisque le grec, on le commençait en 4e. Et puis, à la fin de la 3e, c'était juin 40, et donc l'exode, et on est parti, etc. Puis on a atterri à Brive, ça, je ne me rappelle plus très bien pourquoi, mais sans ça, l'enfance parisienne ne m'a laissé que de très bons souvenirs.
Paris représente quoi pour vous ?
Paris, bah, c'est ma ville.
Vous y êtes très attaché ? Les racines, ça compte pour vous ?
Oui, absolument. Et puis, je l'ai défendu. Il m'est arrivé d'ailleurs une histoire extraordinaire pendant cette bataille de l'avenue des Gobelins. Nous étions avec le groupe auquel j'appartenais dans une petite rue latérale qui montait depuis les Gobelins, en montant vers la gauche, hein, et on m'a demandé, et la barricade était dans l'avenue elle-même, et on m'a demandé d'aller voir où étaient les Allemands, parce qu'on commençait à entendre des mitrailleuses. Alors j'ai débouché sur le trottoir de l'avenue, et j'ai vu, ça c'est un souvenir que je ne peux pas oublier, un tank arrêté devant la barricade, deux soldats allemands debout qui m'ont vu et qui ont tiré, et j'ai vu le feu sortir des fusils. Et puis ça m'a pas touché, je suis remonté en arrière et j'avais mes copains qui étaient blancs de peur, mais j'ai vu une flamme sortir des fusils, voilà.
Nous marquons une petite pause musicale et nous nous retrouverons dans quelques instants en compagnie de Lucien Israël.
Canal Académie.
Mondialisation, régulation, privatisation, génétique, euthanasie, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques participent au grand débat contemporain. Ouvrez leurs rapports, découvrez leurs travaux, écoutez leurs analyses. Éclairage, l'émission destinée à vous faire comprendre le monde, notre monde, ses enjeux aujourd'hui et demain. Éclairage, c'est tous les jours sur Radio Canal Académie.
On retrouve Virginia Crespo.
Temps contre temps reprend son cours en compagnie de Lucien Israël. Professeur Israël, la célèbre phrase « un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche ». Avez-vous une quête spirituelle et si oui, laquelle ?
Écoutez, c'est un problème extrêmement difficile pour moi. J'ai grandi dans un milieu complètement athée. Et tout ce que je peux dire pour essayer de vous répondre, c'est que je ne suis plus sûr qu'on puisse l'être. Mais je n'ai pas d'autre réponse. Le monde est quelque chose de prodigieux, d'incroyable, d'extraordinaire. La nature, la médecine, le fait... que nous ayons, par exemple, dans chaque boîte crânienne d'un être humain, il y a 100 milliards de neurones. Chaque neurone a 10 000 connexions avec les autres, mais qui sont des connexions changeantes. Alors, vous avez entendu parler de Stephen Hawking, qui est astrophysicien britannique. Il travaillait avec un mathématicien qui s'appelle Roger Penrose, qui a écrit un livre sur ces phénomènes et qui a calculé le nombre de circuits potentiels qui existent entre ces 100 milliards de neurones et leurs 10 000 connexions changeantes. Elles changent à l'occasion d'un enseignement, d'une émotion, d'une vision, peu importe, d'un souvenir, eh bien, ça fait 10 puissance 80. Et il dit dans ce livre, 10 puissance 80, c'est le nombre de particules dans l'univers. Non pas le nombre d'atomes, mais le nombre de particules. Ce qui veut dire... ajoute-t-il que si le Soleil explose comme nous le prédisons dans 5 milliards d'années, il n'y aura pas eu deux êtres humains semblables. Donc évidemment, quand on fait face à ce savoir, on se pose des questions. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'il y a une création et une volonté ? Je ne peux pas l'exclure, c'est toute l'ambiguïté de ma réponse.
Et le sens de la vie. Et y a-t-il un projet pour l'univers ?
Y a-t-il un projet ? Qu'il y ait un avenir, sûrement, n'est-ce pas ? D'abord, il y a eu une évolution. Notre ancêtre le plus proche, c'est le chimpanzé. Il y a 98,5% de gènes communs entre le génome du chimpanzé et le nôtre. Mais dans les 1,5, il y a la science, l'art, la spiritualité, les émotions, bien. Et alors, l'évolution va se poursuivre, il n'y a pas de raison qu'elle ne se poursuive pas. Par conséquent, quel est l'avenir de cet organisme étrange que nous sommes ? Personne ne peut le dire.
Que pensez-vous de ce cri de Jeanne Ionesco ? Pourquoi suis-je né si ce n'était pas pour toujours ? L'après-vie vous pose problème ? C'est une question sur laquelle vous vous interrogez vous-même.
Eh bien écoutez, je me suis interrogé longtemps sur l'après-vie, ne serait-ce qu'à cause du métier que je faisais, médecin des maladies graves. Et on m'a posé aussi la question. Mon après-vie ne me concerne plus. Je veux dire, ça ne m'inquiète pas. Je suis prêt à me battre pour la vie des autres et je ne peux pas supporter l'idée que la vie des gens que j'aime, ça me puisse s'interrompre. Mais en ce qui me concerne, j'ai accepté.
Par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport à notre actualité de ce jour, par rapport aux décennies futures. Professeur Israël, quelles sont vos grandes révoltes aujourd'hui ?
Eh bien, écoutez, je vais répondre à votre question, bien que je la juge indiscrète.
Ne touchez pas.
Dans ce livre sur cerveau droit, cerveau gauche, j'ai indiqué, mais naturellement ça n'est pas moi qui l'ai trouvé, ce sont des informations que j'ai rassemblées, que la partie non verbale de notre cerveau, c'est le cerveau droit chez les droitiers, tandis que le cerveau gauche, c'est celle du langage. Et dans le cerveau droit, il y a tout ce qui n'est pas formulé clairement, mais qui intervient considérablement dans notre comportement. Il y a les mœurs et les coutumes, les habitudes, les interdits, la façon dont il faut s'adresser à quelqu'un dans telle ou telle circonstance, dont il faut le regarder, quand il faut baisser le regard, etc. Bien. Il y a aussi l'histoire, et l'histoire qui nous a été enseignée à l'école. Moi, je ne suis pas d'origine gauloise, mais j'ai pleuré pour Vercingétorix et j'ai pleuré pour Jeanne d'Arc. Bien. Et parce que mes professeurs, mes maîtres, on était touchés par ce qu'ils nous enseignaient. Bon, coutumes, souvenirs, modèles, etc. Tout ça, ça compose une culture. Et on le voit très bien quand on va visiter un pays étranger. Il ne se passe pas la même chose. Et même dans les langues, puisqu'il y a des objets qui sont du masculin dans une langue et du féminin dans l'autre. Sa présidente, en lui disant qu'il faudrait faire une grande distinction entre assimilation des individus et intégration de groupes, mais elle ne m'a jamais répondu.
Professeur Israël, est-ce pour nous faire la démonstration qu'il y a de très bonnes connexions entre votre cerveau droit et votre cerveau gauche que vous avez écrit des poèmes ?
Écoutez, ces connexions existent chez tout le monde, ça s'appelle le corps calleux et ça comprend 200 000 fibres nerveuses. Mais la poésie, c'est quelque chose de très particulier parce que d'une part, c'est fait avec des mots et par conséquent, c'est le cerveau gauche. Mais d'autre part, c'est supposé déclencher des images, des visions, des émotions. Et ça, c'est le cerveau droit. Et c'est le côté de la tonalité musicale. Donc, on n'écrit pas un texte poétique comme on écrit un autre texte. Donc, moi, ça m'a pris à l'âge de 17 ans parce que je suis tombé amoureux de Mallarmé en lisant le premier de ses ouvrages qui me soit tombé entre les mains. Et donc, au cours de ma vie, j'ai aussi écrit et publié des poèmes, mais je crois que leur diffusion a été extrêmement restreinte.
Alors justement, entre le scientifique que vous avez été tout le long de votre vie et puis l'amoureux des lettres, l'amoureux de la poésie, quelle est la part de mystère que vous accordez à la vie, la part de l'indémontrable ?
Oh bah écoutez, on en a parlé déjà, le 100 milliards de neurones, ça fait un groupe indéchiffrable. Nous ne savons pas comment nous en sommes venus à ce que nous sommes. Un jour, les généticiens sauront ce que nous sommes sur ce plan-là. Parce qu'on est en train de décoder les 35 000 gènes de notre patrimoine, mais chaque gène est capable d'exprimer 2 ou 3 protéines selon la partie qui s'exprime, et ça fait des dizaines de milliers d'éléments qui nous composent et qui changent la nature de notre existence, les événements extérieurs, l'alimentation, tout ça. Donc c'était en effet un grand mystère, je le perçois parfaitement, j'ai perdu l'illusion de pouvoir comprendre la totalité d'un être humain que je rencontre.
Comment visitez-vous, revisitez-vous la célèbre phrase de Platon « Je sais que je ne sais rien » ?
Oh ben c'est... Platon ne dirait pas aujourd'hui « je sais que je ne sais rien », parce que le savoir scientifique aujourd'hui double tous les 4 ans. Mais il dirait sûrement « je sais que je ne saurai jamais tout ».
Professeur Israël, merci d'avoir partagé ce temps de parole avec nous. Merci.
Non, merci.